On va se courber ensemble dans un mot de prière, d'accord? Merci, Père, pour ce privilège que tu m'accordes ce matin d'être avec ton peuple, Seigneur. C'est dans les journées où on est malade, Seigneur, qu'on mesure cette grâce d'entendre les louanges comme je les entendais à l'arrière et avoir mon cœur ramené vers toi ce matin, simplement par les louanges des frères et sœurs, par le plaisir des musiciens, par leur excitation à venir conduire ton peuple dans la louange. Merci, Père, pour la famille de Dieu. Père, nous sommes assemblés ce matin pour bénir ton nom, pour élever ton nom dans nos cœurs. Nous voulons dire avec David, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Père, nous sommes assemblés ce matin pour t'inviter à régner dans nos vies, dans nos cœurs. Nous nous sommes assemblés pour écouter ta parole, pour chanter tes louanges, pour parler avec un frère, une sœur et se réjouir de ce que tu es en train de faire dans leur vie ou porter un fardeau avec eux dans la prière. Mais nous sommes assemblés ce matin principalement pour que tu nous parles, Seigneur. Parce que tu parles à ton peuple à travers ta parole, à travers la prédication de ta parole. Dans ta grâce, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour appliquer tes saintes écritures dans notre vie, dans notre contexte, dans notre époque, Seigneur. Mais surtout, viens nous transformer par ton évangile, Seigneur. Viens changer nos cœurs. Déjà, tu nous as donné un cœur nouveau. Viens nous transformer à l'image de Christ, que nous lui ressemblions de plus en plus. Père, je te prie aussi de faire pénétrer l'Évangile dans nos familles. Viens, Seigneur, donner l'Évangile à nos enfants, Seigneur. Que nos enfants embrassent la foi. Qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Nos conjoints inconvertis, Seigneur. Nos parents que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières, et pour cette ville, Seigneur. Montre-nous dans les années à venir comment atteindre cette ville. Renouvelle notre zèle, Seigneur, pour partager Jésus-Christ à ces gens qui périssent faute de te connaître. Viens ce matin. Sois avec moi, je te demande principalement de me fortifier physiquement dans mon cœur, dans mon esprit, et de disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Je remercie tous ceux et celles qui ont prié pour ma retraite cette semaine. Ça a été une drôle de retraite, comme vous le comprendrez. J'étais partagé entre deux pièces. mais ça a été quand même un temps béni. Oh, Michel est déjà revenu de Paris. Je ne savais pas que tu étais avec nous ce matin. Salut! Il n'était pas en vacances, c'était pour le travail. Merci pour ceux qui ont prié, j'ai eu un bon temps. Je travaillais sur la série, entre autres, que je commence ce matin, et puis comme c'est souvent le cas dans ces retraites-là, comme je vous ai partagé, je vais là avec François Turcotte et Stéphane Gagné, deux autres pasteurs, deux bons amis à moi, puis à tout moment donné, les gars, on arrive avec des lectures, hein? Puis François est arrivé avec une lecture pendant que je préparais cette série-là, puis ouf, il m'a relancé dans un paquet de lectures encore, mais c'était vraiment intéressant. Je vous le dis, c'est un sujet tellement excitant d'étudier ce que la parole de Dieu a à nous dire sur les biens matériels et sur les richesses. C'est un sujet qui est excitant. Peut-être que ça vous inquiète ce matin que je me lance là-dedans. Je vous le dis, c'est excitant. Je vous le dis. Juste une précision pour ceux qui s'inquiètent là, de ce que j'ai, mais ça ressemble à une gastro-entérite sans la première partie, OK? Fait que, En principe, ça devrait se placer dans les prochains jours, et puis tout devrait bien aller. Mes symptômes sont mineurs, mais ils sont quand même agaçants. Je suis content de commencer la série avec vous. Ça fait longtemps que j'avais à cœur d'adresser ça avec vous. On va parler pendant les 4 prochaines semaines des biens matériels et du royaume de Dieu. On va parler des richesses, des biens matériels et du royaume de Dieu pendant 4 semaines. J'ai intitulé la série « Ni pauvreté, ni richesse ». Ce n'est pas très original, vous irez voir le Proverbe 30, les versets 7 à 9, d'accord? C'est inspiré de ça parce que je crois que c'est un des passages qui résume le mieux ce que Jésus nous enseigne dans l'ensemble du Nouveau Testament sur les biens matériels et les richesses. Alors, je vous encourage à prendre le temps cette semaine d'aller lire et relire ces versets et de les lire dans la prière et de demander au Seigneur s'il a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à ce passage? Alors, ni pauvreté ni richesse, on va passer 4 semaines. Et comme je vous disais, je suis content de le faire parce que c'est un sujet qui me tient grandement à cœur. C'est un sujet que j'aime, j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi pour notre foyer, pour notre vie personnelle. Ça fait plusieurs années, peut-être que quelques-uns se rappelleront, j'ai fait une série en 2004 de quelques semaines aussi sur le même sujet. Les Écritures en parlent beaucoup. Jésus, qui n'était pas tellement intéressé à l'argent, je pense que vous allez être d'accord avec moi, vivait très humblement, parlait pourtant beaucoup des biens matériels et des richesses. Alors, il semble qu'il y a quelque chose de très spirituel dans les biens matériels et les richesses. Jésus en parlait énormément. Une bonne partie de ses enseignements avait des applications rattachées à ça. Mais dernièrement aussi, je prenais un temps dans la parole de Dieu avec les enfants, le soir après le souper, et puis je partageais avec eux un passage dans Malachie. Et j'étais tellement émerveillé encore une fois par ce que Dieu nous enseigne dans sa parole sur cette question-là. J'étais excité d'enseigner ça aux enfants. Les enfants trouvaient ça fascinant. Et puis après, lorsqu'on a couché les enfants, je disais à Esther, il faut que je partage ça avec l'Église. C'est tellement important et c'est tellement beau. On a tendance à être mal à l'aise avec ça. Mais c'est vraiment un beau sujet qui parle beaucoup de notre foi, de notre spiritualité, de notre amour pour Dieu, de notre amour pour les gens. C'est vraiment un beau sujet. Donc, 4 semaines qu'on va passer là-dessus. Et j'aimerais ça vous résumer un peu notre ambition. Notre ambition comme pasteur, mais comme Église. Ça se résume dans un verset, dans un passage de Paul. Je vais juste vous le lire. Voici ce que Paul dit. « C'est lui que nous annonçons, en parlant de Jésus, bien sûr, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Présenter à Dieu tout homme et toute femme devenu mature en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, parfait. Être complet. Être mature dans tous les aspects de notre vie. C'est ça le projet. C'est là qu'on s'en va. Par la grâce de Dieu, c'est là qu'on s'en va comme Église. Nous poursuivons activement une maturité à l'image de Jésus-Christ. Et ça implique les biens matériels et l'argent. Ça implique ça aussi. Grandir en Jésus-Christ implique toute notre vie et ça prendra toute notre vie. Écoutez bien ceci. Vous verrez si vous êtes d'accord avec moi. Une bonne gestion des finances personnelles, caractérisée par de la générosité et peu d'endettement, est le fruit d'une vie consacrée à Jésus-Christ. Est-ce que ça a de l'allure? Je le relis. Une bonne gestion des finances personnelles, caractérisée par de la générosité et peu d'endettement, est le fruit d'une vie consacrée à Jésus-Christ. Et ça passe par une transformation du cœur. Ça passe par le cœur pour arriver là. Apprendre à gérer ses finances et ses biens personnels avec sagesse et générosité fait partie du processus de transformation du cœur pour ressembler de plus en plus à Jésus. C'est un processus. Ça demande une transformation profonde de nos systèmes de valeurs. De notre système de valeurs, ça demande une transformation profonde du cœur. Mais c'est à ça que Dieu est engagé, à nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, même dans la gestion de nos finances et de nos biens personnels. Et si Dieu nous appelle à instruire selon toute sa parole, les finances en font partie. Personnellement, j'essaie de donner l'exemple. J'essaie de toujours d'aller en grandissant dans notre gestion de nos finances, dans notre générosité à la maison, Esther et moi, envers l'œuvre de Dieu, mais pour toutes sortes de causes aussi. Et on n'est pas parfait. Cette semaine encore, Esther et moi, on en parlait, il y a des domaines qui sont encore à travailler. Je n'ai pas la prétention d'avoir atteint la perfection dans ce domaine-là. Mais nous essayons de donner l'exemple. Et j'en parle régulièrement avec mes proches. Ce n'est pas un sujet qui me met mal à l'aise. J'en parle régulièrement avec mes proches. Les hommes que je forme, on en discute régulièrement ensemble. Alors, je ne me gênerai pas d'en parler avec vous. Parce que c'est un sujet un peu délicat dans les églises, parce que des fois les églises ont eu des scandales qui nous font honte, honnêtement, mais c'est un sujet important dans la parole, je ne me gênerai pas d'en parler avec vous. Ma prière et mon rêve, c'est de voir cette assemblée sur le plan familial, chacun d'entre nous dans nos foyers et en église ensemble, grandir au niveau de la gestion des finances et grandir dans notre générosité pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Alors, je veux juste dire un mot pour des gens qui seraient visiteurs ici ce matin. Peut-être que vous êtes visiteur ou peut-être que vous êtes quelqu'un de régulier à l'Assemblée ici, mais déjà vous êtes sur la défensive puis vous vous dites, une église qui va commencer à parler d'argent, c'est quoi l'affaire? Où est-ce qu'on s'en va? Écoutez, la série va durer 4 semaines. 4 semaines. Alors, je vous demande de faire quelque chose. Mettez de côté vos préjugés. Restez avec nous pour 4 semaines. Écoutez attentivement ce que je vais apporter. Et vous viendrez me voir après pour me dire s'il y avait quelque chose de malsain dans tout cela. Ou si, au contraire, ce n'était pas une sagesse, remplie de sagesse, qui vient de Dieu, et qui est selon la parole de Dieu. D'accord? Si vous êtes sur la défensive ce matin, donnez une chance au coureur, 4 semaines avec nous, et vous verrez si le Seigneur ne vient pas bouleverser des choses dans votre vie, changer des choses dans votre vie. Alors, commençons par le commencement. Et quand on parle du commencement dans les Écritures, on parle du commencement. Au début, Dieu créa le monde. Il vit que cela était bon. Je ne peux pas aller plus au commencement que ça. Genèse 1. Dieu est le créateur de toutes choses et tout ce qu'il a fait est excellent. Dieu créa les cieux et la terre, les arbres fruitiers, tout ce que nous voyons, touchons, mangeons. Tout cela trouve son origine en Dieu. Je vous lis juste un verset, Genèse 1, 24. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu est le Créateur, il a fait toutes choses et tout ce qu'il a fait est bon et excellent. Dès les premières pages de la Bible, nous voyons que Dieu a créé un monde matériel. C'est important parce que vous allez m'entendre parler des biens matériels pendant 4 semaines. Jamais je suis en train de prétendre que c'est mal ou que c'est mauvais. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, nous pouvons voir que Dieu a créé un monde matériel et que cela est excellent. Dieu a créé toutes choses et elles sont bonnes. Genèse 1. Maintenant, non seulement les Écritures commencent avec cette idée-là, mais lorsqu'on tourne à la fin de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, il est encore question d'un monde matériel. L'Apocalypse termine avec cette idée d'un monde, je m'excuse, matériel. J'ai-tu toussé dans mes mains? Ouf! Je vais sortir par en arrière, OK? C'est bon, Jean-Paul, on a reçu le message, je pense. En tout cas, moi, je l'ai reçu. Je vous lis 2 extraits dans l'Apocalypse, puis ça va être très clair. Apocalypse 21, verset 1. Alors, c'est l'apôtre Jean qui écrit cela, c'est des visions, des révélations, un livre qui est difficile à interpréter, mais en même temps qui nous donne des indices sur ce qui nous attend après. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Apocalypse 21:1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ainsi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, fit une création, un monde dans lequel nous vivons actuellement et il est bon puisque c'est Dieu qui l'a créé. Et un jour vient où Dieu créera à nouveau. Et ce sera très bon. Ce sera excellent. Les Écritures nous parlent d'une résurrection du corps. Mais dans un corps qui n'éprouvera plus la souffrance et toutes les conséquences de la malédiction qui est venue avec le péché. C'est très important ce qu'on est en train de voir actuellement. Chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous vous préparez à savourer un panier de framboises, vous pouvez rendre grâce à Dieu en disant, « Seigneur, j'attends encore une terre et des cieux nouveaux avec un corps glorifié où je serai en train de savourer toutes ces délices que tu as créés, mais sans les conséquences du péché, sans la maladie, sans la souffrance, sans la déception qu'apporte le péché. » Je sais que c'est évident pour la majorité d'entre vous ce qu'on est en train de voir. Mais appréciez encore une fois que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est merveilleux. On était dans le Vermont avec Stéphane et François. Puis j'étais en train de travailler sur la prédication. Et on était vraiment dans les belles montagnes du Vermont. L'automne est assez avancé là-bas. Il y avait même une montagne qui était à moitié enneigée, juste avec une espèce de frimas blanc sur tous les arbres. Puis le reste avait ses feuilles encore de toutes les couleurs. Et à un certain moment donné, la pensée qui m'est venue, c'est en fin de compte, je ne suis pas devant quelque chose d'exceptionnel. La terre est remplie de ces beautés-là. Tous les pays ont des merveilles à exposer. Tout ce que Dieu a fait partout sur la terre est merveilleux et bon. Et Dieu l'a créé pour que nous en profitions. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 6, on est dans le Nouveau Testament. Des fois, on a l'impression que l'Ancien Testament, waouh, la création, des belles promesses, d'abondance. Puis là, tu arrives dans le Nouveau Testament, puis non, la vie est dure. Et pourtant, Dieu continue à dire que tout ce qu'il nous a donné, c'est pour que nous en profitions. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est la suite qui m'intéresse pour l'instant. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous sommes dans un pays d'abondance extraordinaire. Et on n'a pas à être gêné de ça. Parce que ce que Dieu met sur ma table, c'est pour que j'en profite, que je l'apprécie. On parlera de générosité plus tard. Mais commençons par le début. Ce que Dieu met sur ma table, c'est pour que je bénisse son nom, que je savoure ses bontés. Lorsque j'entends les rires d'un enfant, c'est Dieu qui a fait ça. Quand je vois un petit enfant venir au monde, c'est Dieu qui a créé cet être. Quand je savoure un bon repas, c'est Dieu qui l'a fait. Quand j'apprécie un coucher de soleil, c'est Dieu qui a peint cette toile-là pour mon regard, afin que je lève les yeux vers le ciel et que je dis, Seigneur, tu es merveilleux. C'est agréable de vivre et de profiter de tout ce que tu as créé. Dieu a créé toutes choses et cette abondance, il nous la donne pour que nous en profitions. C'est ça l'idée. Voyez-vous, il y a des philosophies, et là je m'écarte juste un instant parce qu'il y en a qui étudient au cégep, il y en a qui viennent en contact avec d'autres religions. Le bouddhisme est à la mode actuellement. Il y a des philosophies qui prônent un détachement. Il faut se détacher de ce monde et de ses plaisirs. Ou encore, il y a des philosophies qui nous disent que la matière est mauvaise, tout ce qui est matière est mal, et tout ce qui est spirituel est bon. Et ils proposent une opposition entre les deux. Le christianisme, le judaïsme, les saintes écritures n'ont jamais enseigné cela. Notre problème, c'est dans notre relation. Notre problème, c'est le péché. Mais selon les écritures, Dieu nous a créés avec un corps physique, dans un monde matériel, et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et lorsqu'il va recréer toutes choses, nous aurons un corps glorifié, dans une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et ce sera encore une fois magnifique. Repensez à Jésus qui allait manger dans les banquets de bons repas. Les mauvaises langues disaient de lui qu'il se tenait avec les mangeurs et les buveurs. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour qu'on puisse en profiter. Ailleurs, Paul dira, « Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Alors, c'est la première chose à retenir ce matin. Dieu est le Créateur et tout ce qu'il a créé est bon. Et j'aimerais ça que vous reteniez ça pendant les 4 prochaines semaines. Pendant les 4 prochaines semaines, on va parler d'être riche pour Dieu. De ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. On va parler de générosité. On va parler d'être de sages économes. Mais rien dans tout ce que je vais apporter dans les 4 prochaines semaines ne sera en contradiction avec ce que je viens de dire là. Devenir généreux, devenir économe, s'investir pour le royaume de Dieu, devenir riche pour Dieu, ne s'oppose pas avec cette joie, cette action de grâce qu'il y a dans le cœur d'un enfant de Dieu lorsqu'il savoure un bon repas, lorsqu'il va faire un achat sagement et qu'il dit « Merci Seigneur, c'est toi qui pourvois. » Il n'y aura jamais de contradiction entre les deux. Gardez-le à l'esprit, s'il vous plaît. C'est notre rapport aux choses qui est souvent problématique. C'est notre attitude à l'égard de l'argent, à l'égard des biens matériels, à l'égard de ce que Dieu nous donne qui pose problème. Pas ce que Dieu a créé. Si vous partez avec cette idée-là, j'aurai mal fait mon travail, je vous l'assure. Si je retourne au commencement, dans Genèse 1, nous voyons que tout va pour le mieux. Dieu a créé l'être humain et le destine au bonheur dans un monde matériel, le Jardin d'Éden. Et tout est parfait. Maintenant, tout s'est compliqué, évidemment, lorsque le péché est entré dans le monde. Quand le péché est entré dans le monde, toutes nos relations ont été affectées. Notre relation avec Dieu, nos relations, nos rapports les uns avec les autres ont été infectés, affectés, transformés par le péché et notre relation avec les biens matériels. Vous pouvez difficilement imaginer Adam en train de garder pour lui un fruit qu'il vient de cueillir. On va l'imaginer tout de suite, choisir le plus beau et le donner, au lieu d'être égoïste. Mais quand le péché est arrivé dans le cœur de l'homme, de tous les êtres humains, toutes nos relations ont été affectées. Notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les autres, notre rapport au bien matériel a été affecté par le péché. Le fait que je travaille, je gagne une paye, j'ai un chèque de paye dans mes mains, il y a un chèque qui est déposé dans mon compte en banque, puis j'ai de l'argent dans mon compte en banque. Il n'y a rien de mal, là. Au contraire, j'ai la possibilité de faire de très belles choses. Pourvoir à mes besoins, pourvoir aux besoins de ma famille, pourvoir à ceux qui sont dans le besoin, être généreux avec mes biens, avoir une augmentation de salaire. Boy, c'est une bénédiction! Ça se peut que je puisse pourvoir à un besoin de la famille qui tarde depuis longtemps à être répondu, puis ça a été une réponse à nos prières. Ça se peut que je puisse aider un peu plus un frère qui est dans le besoin. Voyez-vous, le problème n'est pas dans l'argent qui rentre. Au contraire, ça c'est la grâce de Dieu. Le problème est dans le regard que je dépose dessus, dans ce qui se passe dans le cœur, dans ma relation avec cet argent-là, avec ce qu'il y a dans mon compte en banque ou ce qu'il n'y a pas dans mon compte en banque. Alors, vous ne serez pas étonnés de savoir que pour un passage dans le Nouveau Testament où il nous est dit que les biens matériels, c'est une bénédiction de Dieu, 4 à 5 passages nous sont donnés pour nous mettre en garde. Jésus et les apôtres nous mettent régulièrement en garde afin que les biens matériels et l'argent ne soient pas un dieu dans notre vie, une idole qui nous domine. Jésus dira dans Luc 16, verset 13, je vais le lire rapidement, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Mammon, c'était un dieu, une idole syrienne, le dieu de la richesse et des biens matériels. La richesse et l'argent. Jésus nous dit que l'amour de l'argent et des biens matériels en empêchera plus d'un d'entrer dans le royaume des cieux. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Jésus nous dit que l'amour, pas les biens matériels, l'amour des biens matériels et des richesses empêchera plus d'un d'entrer dans le royaume des cieux. C'est fort! Plusieurs personnes ne recevront pas l'Évangile, vont entendre l'Évangile, vont recevoir l'idée de ce que Jésus a fait et vont décider de rejeter l'Évangile par amour pour les biens matériels. Et ils vont être rejetés pour l'éternité. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Si tu refuses de suivre Christ à cause de ton amour pour les biens matériels, pour les richesses de ce monde, il n'y a pas de salut. Il y en a ailleurs, il n'y en a nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et il y a des gens qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu à cause de leur amour pour les richesses et pour les biens de ce monde. On parle d'éternité ici, là. Je viens de fêter mes 39 ans. Si ça va bien, il m'en reste peut-être quoi, 30 encore? Je vous parle d'éternité, je ne vous parle pas d'un an, 2 ans, 20 ans, 30 ans, je vous parle d'éternité. Plusieurs n'entreront pas dans le royaume des cieux à cause de leur amour pour les biens matériels. Dans la parabole des 4 terres, si vous êtes familier avec cette parabole, vous allez vous en rappeler. Pour les autres, Jésus raconte une parabole dans laquelle il illustre par des semences. Un semeur est sorti, il va semer, et les semences représentent la parole de Dieu, justement, qui est déposée dans différentes terres. Et ces terres, alors qu'il lance dans son champ, tombent parfois dans un coin qui est plus pierreux, un autre endroit est plus épineux. D'autres places, c'est vraiment de la bonne terre. Ces terres représentent les cœurs de ceux qui entendent la parole de Dieu. Et je vous lis un extrait dans l'Évangile de Marc. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La séduction des richesses et les autres convoitises peut venir neutraliser littéralement ce que la parole de Dieu est censée faire dans ton cœur. Si tu as cette idole dans ta vie, où ce que tu poursuis, c'est les courants du monde. Tu veux vivre comme le monde, suivre toutes les modes, toutes les tendances comme le monde. Tes orientations sont là-dessus. Ton énergie est là. Tu veux suivre la cadence de tes voisins à laquelle ils remplacent les voitures, les télévisions, les ordinateurs, juste parce qu'il y a une nouvelle bébelle qui est sortie. Et il y en a qui le savent, j'aime les bébelles. Mais si c'est une idole dans ta vie, si c'est quelque chose qui domine ta vie, cela aura pour effet de neutraliser, amener à zéro tout message de la parole de Dieu qui va venir vers toi. Parce que ton cœur est partagé. Mammon est là dans ton cœur, dans ta vie. Et tu ne peux pas entendre ce que Dieu a à te dire. L'Esprit de Dieu parle, tu poursuis quelque chose d'autre que la gloire de Dieu. L'amour des richesses et toutes les autres convoitises ont cette puissance de neutraliser l'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas peu de choses, parce qu'elles n'apporteront pas le bonheur. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était très riche, d'accord? Elle avait passé son million à, je ne sais pas, peut-être à 40 ans. Et je me rappelle que ma mère me disait que parfois, cette dame-là téléphonait, elle habitait aux États-Unis. Et quand le gros lot de la 649 devenait assez gros, elle téléphonait ma mère pour voir si ma mère n'y achèterait pas un billet. C'est sans fin. Ça te dévore par en dedans. Jamais satisfait, juste un peu plus. Juste un petit peu plus. C'est sans fin. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que vous avez peur d'entendre ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là? J'ai mentionné vite la semaine dernière que j'allais enseigner sur les biens matériels et les richesses. Ceux qui l'ont entendu, est-ce qu'il y en a qui ont été comme « Wow, je pense que je vais aller visiter une autre église pour une couple de semaines. » Est-ce que vous avez peur de ce que je vais dire dans les prochaines semaines? Je pense que l'Assemblée me connaît ici, et par la grâce de Dieu, généralement, je suis bien attaché à la parole de Dieu. Ce que je vais vous apporter, ça vient de la parole de Dieu, et vous allez pouvoir le vérifier, et faites-vous-en pas si jamais je m'écarte d'un iota. Et on est dans une église baptiste ici. Je vais avoir des téléphones. Ce que je vais vous apporter, ça vient de la parole de Dieu. Mais quel est votre sentiment actuellement? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a à vous dire dans les prochaines semaines? Ou est-ce que vous vous sentez sur la défensive? Cette séduction des richesses va s'exprimer de toutes sortes de manières. Chez certains, ce sera par de l'égoïsme. Peu ou pas de générosité et de partage. C'est du chacun pour soi. Ou bien par une poursuite démesurée de la carrière, du standing. Ou encore par l'endettement. Pensez-y un instant. S'endetter pour se payer du luxe, des loisirs et des vacances, c'est de la folie pure et nette, ça. Il n'y a pas un conseiller non chrétien qui va vous conseiller de faire ça. Ou ça va être les inquiétudes financières. Il y a des gens qui sont toujours inquiets au niveau financier. Il n'y en a jamais assez d'engranger comme sécurité. Des achats impulsifs pour d'autres. Pour d'autres, ce sera des problèmes de gambling. Alors, vous voyez, tu peux être tout autant économe ou dépensier et avoir mammon pour Dieu dans ta vie. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. Luc 12. On va l'illustrer juste avec une histoire que Jésus raconte ce matin. Luc 12, verset 13. Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez-vous, ici, on a un homme économe et égoïste. L'amour des richesses et des biens matériels s'exprime de différentes manières chez chacun d'entre nous. Certains sont dépensiers, d'autres sont économes. Les deux peuvent avoir cette idole dans leur vie. Les deux. Alors, d'une part, tout ce que Dieu a créé est bon, est excellent, et il nous le donne pour que nous puissions en profiter. Et d'autre part, le péché est venu affecter notre rapport aux choses, notre relation avec ces bonnes choses que Dieu a créées. Et trop souvent, ces bonnes choses que Dieu a créées deviennent une idole dans notre vie. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est une transformation du cœur pour ressembler à Jésus-Christ. On va voir des principes ensemble dans les prochaines semaines. On a un cours, on va vous en parler dans les prochaines semaines, un cours qui s'en vient en janvier sur la gestion des finances personnelles. Il y a des principes tellement sages que parfois on va rencontrer dans des séminaires non chrétiens, des gens qui vont s'amuser à citer ces textes de sagesse millénaires pour montrer comment on doit gérer même les finances personnelles. Il y a des principes sages, mais les principes ne suffiront pas. Il ne suffirait pas qu'on vous donne une classe, qu'on s'assoie toute la gang avec un expert en gestion des finances qui nous donne tous les principes de sagesse. Il nous montre tout ça et tout d'un coup, tout va bien. Ça ne suffira pas parce qu'on n'arrache pas une idole du cœur avec des principes. On ne révolutionne pas un cœur avec des principes. On transforme un cœur mort en lui donnant un cœur nouveau par l'Évangile de Jésus-Christ. Ça prend une conversion, littéralement. Martin Luther, le grand réformateur qui a vécu au 15e siècle. Voici ce qu'il a dit. Vous allez voir, plus ça change, plus c'est pareil. 15e, ça veut dire 1400 quelque, d'accord? Martin Luther a dit, il y a trois conversions dans la vie chrétienne. La tête, le cœur et la bourse. Plus ça change, plus c'est pareil. Ça prend une conversion. Ça prend une révolution intérieure dans le cœur pour que nos priorités changent, pour qu'on devienne amoureux du royaume de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, poursuivant la gloire de Christ dans notre vie. Et ça, ça prend une conversion. Ça prend un bouleversement interne. Un changement de nos pensées pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Vivre heureux et libre de cette idole que peuvent être l'argent et les biens matériels. Être capable d'en jouir sans en être esclave. Ce matin, je fais juste déposer les bases. Pour la vaste majorité d'entre vous, vous savez tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et je ne vous apprendrai rien de nouveau dans la suite non plus. Et chacun d'entre nous dans cette salle, on est rendu à un endroit différent. Moi, je prends pour acquis une chose. On vit en Amérique du Nord. Je prends pour acquis que chacun d'entre nous, soit maintenant, soit avant de devenir chrétien, on avait pour idole l'argent et les biens matériels. Est-ce que vous me permettez ça? Je prétends qu'il n'y a pas grand monde d'exclus dans cette salle ici. que la majorité, sinon chacun d'entre nous, nous avons eu, sinon nous avons encore pour idole dans notre vie l'argent et les biens matériels. Soit avant notre conversion, des fois même pendant. Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est un processus de transformation à travers lequel progressivement Dieu chasse des idoles de nos vies. Alors nous sommes tous rendus à un endroit différent sur cette question de l'argent. Certains d'entre vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ. C'est le but de votre vie de réussir financièrement. Le jour où vous allez avoir une carrière, ça va être installé, l'argent va rentrer, votre standing va être établi. Enfin, le monde est à moi! Certains d'entre vous, c'est ça. Et je pense particulièrement aux jeunes gens. C'est tellement tentant. Je vous le dis, c'est attirant incroyablement. Puis on est Québécois, hein? Tim Lane me demandait comment tu définirais les Québécois. Ben, j'ai dit, les Québécois, c'est des gens qui veulent jouir maintenant des bonnes choses. Ah, il dit, ça, c'est bon. Je dis, oui, sauf qu'ils n'aiment pas vraiment Dieu dans le portrait. Ah, ça, c'est moins bon. On n'est pas des grands économes au Québec. On aime jouir de ce que Dieu a fait. Les non-chrétiens ne l'appelleront pas comme ça, mais c'est ça qu'ils font. Et ça reste une de nos caractéristiques, une belle caractéristique. Vous savez, ils nous ont trouvés chaleureux. Barbara disait, je me sentais chez nous. Son épouse, l'épouse de Tim Lane. Tim Lane, c'est le conférencier de l'autre fin de semaine. Alors, on est chaleureux, il y a des beaux côtés à tout ça. Mais en même temps, il y a cette réalité dont nous voulons profiter de toutes ces choses. On veut triper. Et il y a un piège derrière ça. Il y a un piège qui est là lorsque ces plaisirs-là prennent la place de Dieu dans nos vies. Et je pense spécialement aux jeunes gens qui travaillent sur votre carrière et tout ça. Vous avez des choix à faire assez tôt. Assez tôt. On est tous à différents endroits. Qu'on parle de générosité, qu'on parle d'endettement, qu'on parle de situation financière, qu'on parle d'économie. On est tous à un endroit différent dans notre compréhension de ce que les Écritures disent. Ça fait des années que j'étudie le sujet. Il y a encore des vérités qui m'ont bouleversé cette semaine et la semaine dernière. Alors, on est tous rendus à différents endroits. Ce que je vous demande ce matin, c'est d'ouvrir vos cœurs. D'ouvrir vos cœurs à ce que la parole de Dieu a à vous apporter dans les prochaines semaines. Si vous n'avez pas déjà donné votre vie à Jésus-Christ, il est très probable que vous ayez une idole dans votre vie, mammon, l'amour des biens matériels et de l'argent. On est en Amérique du Nord, c'est dur à éviter. Vraiment difficile. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie personnellement à Jésus-Christ, c'est très probable que la séduction des richesses soit très présente dans votre vie. Et comme on le dit souvent, l'argent est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Il nous pousse à toutes sortes d'excès, à l'égoïsme, à l'endettement. Et c'est épuisant d'avoir mammon pour maître. Parce que mammon vous promet tous les plaisirs, mais il vous enchaîne toujours un peu plus. Que ce soit dans l'égoïsme, que ce soit dans l'endettement, il vous enchaîne toujours un peu plus. Si c'est le cas, écoutez bien la parole de Jésus ici. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est épuisant d'avoir une idole comme celle-là dans notre vie. » À un moment donné, les créanciers te courent après, ou tes amis te quittent parce qu'ils voient bien que tu es un gratteux, un égoïste, ou tu détruis ta famille parce que tu poursuis l'argent dans ta carrière et tu négliges les priorités de la vie. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si pour toi c'est un sujet qui est lourd, parce que tu es criblé de dettes, parce que tu poursuis ça sans cesse et tu commences à pressentir que c'est en train de détruire ta vie en réalité. Tu négliges les relations, tu négliges les vraies choses qui sont prioritaires. Et tu n'as pas donné ta vie personnellement à Jésus-Christ encore. Viens à lui simplement dans la prière. Dis-lui, Seigneur, j'ai cette idole dans ma vie qui est en train de détruire toute ma vie. Je suis pécheur, Seigneur. J'ai besoin que tu me libères de ça. J'ai besoin que tu me libères de ces chaînes parce que c'est compulsif, mon affaire. Et j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu viennes me transformer, me pardonner, faire tomber mes chaînes, Seigneur Jésus. Viens, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Invitez-le à venir commencer cette œuvre de transformation dans votre cœur. Restez avec nous dans les prochaines semaines. Écoutez bien, le Seigneur va adresser ça dans vos vies et il va vous libérer parce que Dieu s'est engagé à le faire. Si par contre vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ça n'exclut pas. Cela n'exclut pas qu'il reste pas mal de travail à faire dans ce domaine-là. Amen? Vous n'êtes pas tellement honnête avec moi ce matin. Je suis sûr qu'il reste pas mal de travail à faire. Après tout, comme je le disais au début de la prédication, apprendre à gérer ses finances et ses biens personnels avec sagesse et générosité fait partie du processus de transformation du cœur pour ressembler de plus en plus à Jésus. C'est un processus. Alors, je veux vous inviter ce matin à ouvrir vos cœurs, bien grands à la parole de Dieu. Ne vous fermez pas. Ce que Jésus vous offre, c'est la liberté. C'est le bonheur d'être libre de cette idole, qu'elle devienne vraiment un serviteur et non un maître. Ouvrez vos cœurs pour les prochaines semaines. Cette semaine, prenez le temps d'aller lire Proverbe 30, versets 7 à 9. Lisez ce passage, relisez-le, lisez-le en priant. Prenez le temps d'aller relire cette histoire du riche insensé dans Luc 12. Essayez de voir si vous êtes un séraphin. Comment il s'appelait? Poudrier, c'est ça, séraphin poudrier. Excuse-moi, chérie, je devrais m'en souvenir. Mon épouse, c'est une poudrier. Non, pas parce qu'elle est séraphine. Non, c'est parce qu'elle s'appelle Gertin Poudrier, pas parce qu'elle est séraphine. Allez prendre le temps avec la parole de Dieu pour vous exposer à la parole de Dieu. Laissez-la bouleverser vos cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à faire quelque chose? Combien de gens sont mariés ici? Là, si vous ne levez pas la main, je pense que la personne à côté de vous ne sera pas contente. Est-ce que vous êtes prêts à prier là-dessus avec votre épouse, avec votre époux? Là, je viens de provoquer des chicanes de couple, je le sais. Je le sais. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais la division. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça cette semaine? Priez en couple sur la question. Discutez ensemble. Posez la question à votre conjoint, à votre épouse, votre époux. Demandez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler dans mon rapport avec l'argent et avec les biens matériels? Je sais que ça fait peur à plusieurs. Honnêtement, je sais que ça fait peur. Combien de fois j'ai pas eu le goût d'aller prendre un déjeuner avec mon épouse puis lui dire, « Chérie, comment est-ce que tu trouves que ça va, notre couple? » C'est une boîte de Pandore, tu sais. Puis si ton conjoint règle les choses vite, c'est pas pire, mais s'il règle pas vite, tu rouvres la boîte puis tu viens de remonter 3 ans en arrière. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peur lorsque je dis ça. Et je viens de vous coincer, je l'ai dit en avant, fait que je pense qu'il y en a un de vous deux qui va poser la question. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? À vous humilier, puis à discuter. Allez vers un ami, une amie, peut-être même non-chrétien, et demandez-leur, comment est-ce que tu me vois dans mon rapport avec l'argent, avec les biens matériels? Est-ce que je t'inspire de la sagesse? Est-ce que tu trouves que je suis une personne caractérisée par la générosité? Êtes-vous prêt à faire ça? En discuter dans les petits groupes cette semaine? Avoir le courage de poser la question? Mais premièrement, d'ouvrir vos cœurs devant Jésus-Christ et dire, « Seigneur, viens me parler dans les prochaines semaines. Je veux grandir dans toute ma vie pour te ressembler, Jésus. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné la force d'être ici pendant cette prédication. C'est ta grâce, Seigneur. Mais je te remercie surtout pour ta parole. Ah, combien ta parole est merveilleuse, Seigneur. Combien j'ai du plaisir à y plonger les regards, à me laisser bouleverser, Seigneur. Ça m'excite de voir les frontières nouvelles que tu veux m'amener à traverser dans ma vie. ça me stimule, Seigneur, de voir que tu veux bouleverser des choses dans ma vie et me libérer d'idoles, faire tomber des chaînes, afin que je puisse jouir de ta création sans qu'elle soit un dieu dans ma vie. Je te bénis, Seigneur, pour le privilège énorme que j'ai, moi, personnellement, Yannick, de plonger les regards comme ça dans ta parole toute la semaine et de préparer ces études pour l'Assemblée. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin pour entendre ce message, Seigneur. Amène-en d'autres à aller l'écouter sur le site Internet cette semaine, Seigneur. Dispose leur cœur, ouvre leur cœur et nous à parler de ces sujets-là ensemble, ne pas les garder tabous, mais qu'on puisse grandir ensemble, Seigneur. Et que lorsque des amis non chrétiens apprennent des choses sur nos finances personnelles, ne découvrent pas des gens criblés de dettes ou des gens peu généreux ou des gens qui ont honte de ce qu'ils font avec leur argent, des gens égoïstes, mais au contraire, qu'ils voient en nous des gens qui luttent pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, des gens qui deviennent de plus en plus des modèles de sagesse et de générosité, même dans ce domaine-là, Seigneur. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis-nous cette semaine alors qu'on va discuter ensemble. Viens nous faire grandir à ton image, Jésus, parce que nous attendons le jour glorieux où nous entrerons, nous foulerons le pied de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre, Seigneur, dans ta présence et dans ta gloire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble pour chanter et louer le Seigneur.